Nous continuons maintenant en accueillant le président du département, Serge Rial. C'est à vous, monsieur le président. Et puis donc ensuite, le temps des parlementaires et puis Jérôme Fourquet qui nous parlera des métamorphoses de la société. Voilà le programme de la matinée qui sera conclu par madame la préfète.
Madame la préfète, monsieur le président, cher Jean-Marc, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, ce moment de rencontre et d'échange dans des circonstances nationales et internationales dramatiques que nous venons de vivre est un moment précieux. Je dis un moment précieux car nous vivons dans une société de plus en plus fracturée et clivée. Une société de plus en plus sous tension. Une société où le dialogue, l'échange, l'écoute et même les simples tolérances d'un avis différent du sien sont en train de disparaître. En tant que maire, en tant qu'élu, nous le constatons hélas de plus en plus fréquemment. Ce qui nous relie, ce qui relie les citoyens entre eux et constitue le fondement d'une vie commune, apaisée, éprise de concorde et de fraternité, sachant concilier l'égalité des droits et la liberté de chacun. Bref, cette culture du lien, du commun, de vivre ensemble, tellement importante à l'heure de relever des défis collectifs, le changement climatique, la révolution de la longévité, une société plus inclusive et égalitaire, oui, tout ceci est menacé. Autant dire que c'est la démocratie elle-même, qu'elle soit au plan local ou national, qui est en péril. Pour nous, les élus de terrain que nous sommes, dépositaires dans chaque bourg et village de cette espérance collective magnifique qu'est la République, ce constat ne peut rester sans réponse. Il mérite toute notre attention, toute notre vigilance, tous nos efforts. Je le sais. Il faut souvent déployer des trésors d'inventivité et d'énergie en pagaille lorsqu'on est maire d'une commune rurale. La demande des habitants est forte, les idées sont là, mais les moyens manquent. Et les normes sont complexes, pour ne pas dire parfois hors sol. Je suis pourtant convaincu que la bonne santé de notre démocratie dépend intimement de la bonne santé de ses fondations, et ses fondations, ce sont les communes. Au quotidien, c'est ce pacte de confiance que nous mettons en œuvre au département avec vos communes, avec vous, car nous savons que sans vous, retisser ce lien avec les citoyens sera impossible. Ce soutien, vous le constatez de multiples manières. Il se manifeste par notre politique d'aménagement solidaire du territoire avec un de vos meilleurs amis, je serais tenté de dire un de vos meilleurs alliés, le FAST, le Fonds d'aide aux solidarités territoriales. Près de 1000 projets dans vos communes sont sortis de terre grâce à lui depuis 2017. Et jusqu'à la fin du mandat départemental en 2028, nous allons consacrer à cette politique en moyenne plus de 4 millions d'euros par an. Ce soutien, il se manifeste par un plus grand des gros chantiers menés cette année dans le département avec le déploiement de 10 000 km de fibre optique en un temps record, soit une distance entre Cahors et Tokyo. Aujourd'hui, le Lot est l'un des départements les plus fibrés d'Occitanie et nous sommes dans le top 20 à l'échelle nationale en matière de couverture très haut débit, loin maintenant devant certaines agglomérations ou métropoles urbaines. Ne croyez pas que pour une commune rurale, ce soit ça un détail. Avoir la fibre, c'est disposer du même potentiel de développement et de création d'activités que des zones urbaines. Ainsi, vous avez les cartes en main pour jouer le jeu de l'attractivité et installer soit de nouveaux habitants, soit de nouvelles activités sur vos territoires. Le soutien du département qui se concrétise enfin, et j'arrêterai là les exemples car il y en aurait trop, grâce à l'ingénierie des projets que nous mettons à votre disposition par le SDAI ou le CAUE, et l'un des emblèmes de ce dispositif est Village à venir, expérience made in Lot qui vient d'inspirer en partie le programme national France Ruralité. Cet appui au territoire, régulièrement nous tenons à faire évoluer pour répondre aux défis de toujours plus saillants auxquels nous faisons face collectivement. Le premier défi est celui de l'accélération du changement climatique. Cet emballement nous rend tous, à commencer par nos territoires, de plus en plus vulnérables. Le département du Nord finalisera d'ici la fin de l'année un diagnostic des vulnérabilités du territoire au changement climatique qui concerne tous les secteurs. Le logement, la mobilité, la santé, l'industrie, l'agriculture, le patrimoine naturel, aucun domaine n'est et ne sera épargné par cette analyse. Avec ce diagnostic, que nous partagerons évidemment avec vous, nous avons pour ambition d'adopter un vaste plan d'action pour mieux s'adapter et faire face. En gros, nous ne pouvons plus faire comme si rien n'était, même si nous en faisons collectivement déjà beaucoup. Cependant, ce rythme qui s'accélère nous rend de plus en plus vulnérables. Et si nous voulons donner au Lot un avenir, alors il faut, tel un médecin, diagnostiquer pour mieux guérir et prendre ainsi un temps d'avance. Si je prends un exemple d'action parmi d'autres que nous serons amenés à mettre en place, c'est tout simplement l'éco-conditionnalité des aides départementales. Jusqu'ici, nous avons fait beaucoup d'incitations à l'avenir pour que notre avenir à tous, un avenir que nous voulons durable, nous devons en faire une condition. Le second défi qui rejoint le premier est celui de la préservation de la condition même de la vie, la ressource en eau. Nous le savons, tous ici qui baignons dans l'action publique, la gouvernance de l'eau en France est un maquis complexe où beaucoup de structures s'enchevêtrent. Demain, si nous n'y prenons pas garde du fait de la raréfaction de la ressource, du fait du manque de lien entre toutes ces structures, nous pourrions nous retrouver dans la situation qui a concerné les Pyrénées-Orientales au printemps dernier. Voilà pourquoi ce sujet doit être un sujet de préoccupation majeure à l'orbe d'un transfert de cette compétence aux communautés de communes au 1er janvier 2026. Nous devons collectivement réfléchir à une gouvernance de l'eau au-delà de nos propres limites administratives pour penser global tout en agissant local et ce afin d'éviter que les conflits d'usage n'apparaissent demain et de répondre aux besoins de tous les Lotois et de toutes les Lotoises. Pour avancer sur cette question d'intérêt général, je sais pouvoir compter sur vous, comme vous savez, sur ce domaine, comme sur de nombreux autres, pouvoir compter sur le département. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Serge Rigal. Alors, maintenant, c'est le temps d'expression des parlementaires. Et j'appelle Raphaël Daubé, sénateur, Hugues Tienia, député de la deuxième circonscription, et Aurélien Pradier, député de la première circonscription, à nous rejoindre. Madame, messieurs, vous connaissez la règle du juge. Je n'appelle pas Jean-Marc Vézoufort qui s'est exprimé tout à l'heure, votre président, et qu'on retrouvera dans une table ronde cet après-midi. Voilà, prenez place, madame, messieurs. Vous connaissez la règle du jeu. 5 minutes chacun. Cette expression aussi, la rencontre entre les parlementaires. Alors, nouveaux parlementaires, nouveaux sénateurs, députés chevronnés. Vous avez chacun 5 minutes. 5 minutes, je vais déclencher le chronomètre en commençant par Raphaël Daubé au pupitre.
Madame la préfète, mes chers collègues élus parlementaires, Monsieur le Président de l'AMF, monsieur le président du département, mesdames et messieurs, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, je voudrais d'abord vous rassurer. Parce que je sais que d'aucuns ont exprimé leur inquiétude quant à la perpétuation des traditions, et notamment celle instaurée par Jean-Claude Requier. La poire de contrebande est toujours avec nous, donc on est sur de bons rails. En plus, je crois que Jean-Marc a consenti à rétablir le banquier républicain radical. Donc on est sur la bonne voie.
Ça, c'est hors temps de parole, hein. Ça me paraît tellement essentiel.
C'est décompté de mon temps de parole, j'espère. Je voudrais simplement saluer, j'en profite, évidemment Jean-Claude Requier, Angèle Préville, puisque je m'exprime devant vous aujourd'hui comme sénateur du Lot pour la première fois. Je voudrais avoir une pensée pour eux, leur adresser un hommage amical pour le travail accompli et leur dire aussi la gratitude des élus du Lot que nous sommes pour l'exercice de leurs fonctions et la façon dont ils l'ont fait. Les élus passent, mais vous avez vu, la République demeure, malgré les coups de boutoir incessants que lui assènent ses ennemis, nos ennemis, les coups de poignard aussi. Et donc je voudrais également commencer mon propos avec un hommage à Samuel Paty, à Dominique Bernard, à tous ceux sacrifiés qui ont payé le prix de la haine et du fanatisme. Et du fanatisme religieux, vous avez vu qu'il est encore à l'œuvre. Vous avez vu qu'il rend extrêmement moderne, malheureusement, les combats qui ont été les nôtres au début du XXe siècle, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Je pense à la laïcité. Rappelons-nous de ce principe. La laïcité, c'est un principe de liberté qui est fondateur de la République. La laïcité, principe de liberté qui permet de croire ou de ne pas croire et qui permet à celui qui a fait son choix de la foi ou de l'incroyance de pouvoir être garanti de l'exercer dans une société apaisée républicaine où la liberté et la tolérance le permettent. Et puis la laïcité, c'est aussi une pensée très ancienne qui vient du siècle des Lumières et finalement très française, qui consiste à penser que la liberté naît de la confrontation de ce que l'on a reçu et qui nous vient de la naissance ou de la famille avec ce que l'on a appris et qui nous vient de l'école, qui nous vient du savoir, de la connaissance. Et donc je crois que c'est une notion très très importante qu'il faut toujours que nous ayons à l'esprit, nous les républicains que nous sommes. Mais la République ne doit pas s'en tenir à des mots, vous le savez aussi comme moi, elle doit au contraire s'exercer, elle doit prendre forme, la République, dans des cadres, dans des règles, dans des procédures, dans des usages qui sont les nôtres, dans des traditions aussi républicaines, et elle doit s'incarner dans des hommes et des femmes, et pour être tout simplement une réalité quotidienne pour nos concitoyens, sur les routes, dans la rue, à l'école, dans les mairies. Et je pense qu'à ce titre, les élus que vous êtes, que nous sommes, les élus locaux, notamment en particulier, nous sommes les premiers représentants emblématiques de cette République et donc les premières cibles, la première cible. C'est pourquoi Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, on a voté, c'est vrai, une proposition de loi au Sénat la semaine dernière pour renforcer la sécurité des élus, la protection des maires. Elle a été portée par Jean-Claude Requier et par Maryse Carrère, qui est la présidente du groupe RDSE, notamment. Et donc je veux là aussi les saluer, leur dire que c'est une première pierre à un édifice qu'il faut continuer de bâtir. Voilà, c'est quelques mots sur la République. Le travail du Sénat, vous savez qu'on va avoir deux temps forts qui viennent, qui approchent. C'est évidemment le projet de loi de finances qui va déterminer des choix très profonds pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la France. Je le suivrai avec beaucoup d'intérêt et d'attention en votre nom, puisque je siège à la commission des finances. On a déjà commencé ce travail dans un contexte que vous savez extrêmement tendu, avec un pays très endetté. Le remboursement de la dette sera le premier poste de dépense de l'État. Et puis en même temps, ces perspectives de croissance qui sont à la fois faibles et très incertaines. On en parlait avec les économistes. Tous les indicateurs ne sont pas mauvais aujourd'hui pour la France et pour l'Europe. Mais il y a quand même certains points rouges qui doivent nous alerter, notamment la baisse de productivité des entreprises. On l'avait pressenti dans ce département et je vous l'ai dit pendant la campagne sénatoriale. Malheureusement, c'est un déclin depuis 2018 qu'il faut surveiller. C'est une anomalie européenne par rapport aux États-Unis. Je l'ai appris encore cette semaine en commission des finances. Et puis il y aura sûrement le débat le plus politique, le plus profondément politique qui nous attend, c'est le débat sur la loi immigration, qui fera surgir des clivages ou des positions idéologiques peut-être irréconciliables. Néanmoins très important compte tenu des grands mouvements migratoires qui nous attendent dans l'avenir, nous le savons. Alors, ce sera intéressant et j'essaierai de porter avec mon groupe une voix qui tiendra compte de la question européenne, mais qui essaiera de réconcilier aussi la République et l'humanisme dans cette gestion de la question migratoire. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'en termine pour faire plaisir à M. Dumonteil. Je pense que, en tout cas, nous traversons un tournant historique pour la France et pour le monde, mais c'est dans l'union, dans la force et dans la solidarité que nous arriverons à faire face aux menaces qui nous guettent. Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire du Sénat, de la République et de la France. Merci.
Merci Raphaël Daubé, merci Monsieur le Sénateur. Huguette Tienia, Madame la députée, c'est à vous.
Madame la préfète, Monsieur le Président de l'AMF, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les Présidents des communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des secrétaires de mairie, Mesdames et Messieurs, je suis moi aussi ravie d'être avec vous ce matin, comme nous le faisons tous les ans depuis 2017. Et cette année, au lieu de faire un grand discours, je vais tout simplement essayer de répondre aux sollicitations des élus à travers les lois que nous avons votées. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler pendant le moment convivial. Messieurs les élus, comme vous le savez, notre pays traverse un moment difficile depuis de longues années maintenant. Et comme vous le savez aussi, ces moments difficiles se manifestent à travers un certain nombre de violences dont vous êtes parfois victimes, que ce soit des victimes qui émanent de nos concitoyens, mais aussi des violences qui émanent de nos concitoyens, mais aussi des violences qui peuvent émaner de certains élus. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est très important et c'est la raison pour laquelle, depuis 2017, nous travaillons pour que les élus puissent exercer en toute sérénité. Et la ministre Dominique Faure avait justement prévu cela dans la loi qui a été votée au Sénat, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que dans le PLF 2024, 5 millions d'euros sont prévus justement pour accompagner le quotidien de nos élus. Et au-delà de ça, la question de la sécurité est essentielle pour notre territoire. Et c'est pour ça que dans la loi de programmation militaire, vous avez entendu parler du déploiement de 238 brigades de gendarmerie et pour lesquelles le Lot a pu bénéficier de deux brigades fixes. Sur la question de la sécurité, toujours, il s'agit aussi de renforcer les moyens de la justice, puisque nous avons voté la loi de programmation de la justice. Et comme vous avez suivi, ou peut-être pas, il y a eu des annonces du ministre de la Justice sur le déploiement de personnel supplémentaire d'ici à 2027. Et comme nous faisons partie du tribunal d'Agen, Cahors et Figeac, en tant que tribunal de proximité, devrait bénéficier aussi de ce renforcement. Il y a un sujet que nous avons traité ensemble depuis le début de cette nouvelle mandature, c'est le sujet des secrétaires de mairie, relayé par elles-mêmes à travers l'association qu'elles ont créée. Et ce matin, j'aimerais vraiment leur rendre hommage et vous demander de les applaudir, parce que depuis que l'association a été créée, elles n'ont rien lâché, elles ont continué à travailler. Le projet de loi est voté au Sénat, elle est passée cette semaine en commission et comme le ministre vous l'a promis, il respectera son engagement de venir discuter avec vous. Sur d'autres sujets, il s'agit bien sûr du budget de nos collectivités et tous les ans, c'est un peu le nerf de la guerre de nos élus et je sais que vous n'arrêtez pas de nous solliciter sur ce sujet. Sur la DGF, bien sûr, comme vous le savez, pour la première fois depuis 13 ans, elle a augmenté de 350 millions d'euros. Au-delà de ça, c'est la répartition dans nos territoires, puisque nous sommes des territoires ruraux, qui est important. Et bien sûr, on veillera à ce que vous tirez l'épingle du jeu. Sur la question du DETA, vous savez que c'est aussi une partie de la réserve parlementaire qui se retrouve là-dedans. le DECIL, et maintenant avec le fonds vert qui est pérennisé, qui viendra vous accompagner dans vos projets qui sont liés à l'environnement. Un point essentiel aussi sur la question de la biodiversité. Comme vous le savez, il y a eu aussi 41,8 millions d'euros pour l'année 2023, et j'espère que nos communes qui sont concernées pourront bénéficier de ces fonds. Pour terminer, pour les quelques minutes qui me restent, vous savez que je fais partie de la commission quelques secondes. Je fais partie de la commission du développement durable et de l'aménagement des territoires, donc c'est d'autant plus important pour moi le contact avec les élus. Et puis, depuis 2017, je viens à votre rencontre. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition lors des permanences parlementaires, lors de vos réunions de communautés de communes ou à votre sollicitation. Et comme vous savez aussi, nous faisons partie de l'association des maires et des élus. Et comme tous les ans, nous serons ravis avec les collègues parlementaires, sénateurs et députés de vous accueillir pour visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Et bien sûr, autour de ce moment emblématique convivial qui est agrémenté tous les ans par les sacrées boissons du sénateur Jean-Claude, que je rends hommage aussi, ainsi qu'Angèle Préville, pour ce qu'ils ont pu faire pour notre ruralité. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci, Huguette Tienia. Merci, madame la députée. La parole est maintenant à Aurélien Pradier, député de la première circonscription.
Madame la préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus et acteurs de notre territoire, mes chers amis, je suis évidemment très heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment annuel important qui est celui du congrès des élus du département. Je pourrais vous parler sûrement de l'actualité parlementaire. Je pourrais vous parler de notre actualité budgétaire. Je pourrais vous parler des textes que nous allons examiner dans quelques semaines sur le statut des secrétaires de mairie. Je pourrais vous parler de ce qui va nous occuper dans les semaines et dans les mois qui viennent et qui fait l'actualité et la vie quotidienne des parlementaires. Mais je préférerais vous parler d'autre chose, en réalité, ce matin. D'abord parce que beaucoup des débats parlementaires, notamment sur le budget, sont des débats, cher Raphaël, dont tu découvriras dans quelques heures... qu'ils sont des débats souvent écourtés. Les 49-3 ont désormais une pratique assez courante. Et cette pratique-là a deux conséquences. La première, c'est d'écourter le temps du débat parlementaire. La seconde, peut-être plus grave, à laquelle je crois qu'il ne faut pas que nous nous habituions les uns et les autres, est de neutraliser le débat politique. Nous avons hier vécu, avant-hier, l'énième 49-3 de la saison du deuxième mandat du président de la République. Mais il y a une nouveauté, sur laquelle, sans esprit de polémique, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. C'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'un 49-3 est déclenché avant même que le débat parlementaire n'ait débuté. C'est donc la première fois qu'un texte budgétaire va être imposé à la force du 49-3 sans que le moindre amendement, d'où qu'il vienne dans le débat parlementaire, n'ait pu être examiné et donc potentiellement adopté. Chacun peut avoir l'avis qu'il veut sur la finalité du texte budgétaire. Chacun peut avoir la position politique qu'il veut. Mais il y a un danger considérable qui serait de nous habituer petit à petit, comme une lente accoutumance, à ce que le débat parlementaire n'existe pas et que donc la fonction de parlementaire, la fonction d'élu, par la même conséquence, soit des fonctions banalisées, neutralisées, voire rendues progressivement inefficaces. Et c'est la chose dont je voudrais vous parler ce matin. Ce dont je veux vous parler, c'est de notre démocratie. Vous êtes, vous les élus locaux, nous sommes les parlementaires, des acteurs premiers de la démocratie. Ce bien qu'est la démocratie n'est pas un bien éternel, n'est pas un bien immuable. Il est un bien qui doit être protégé, préservé quotidiennement et minutieusement. Et parmi les grandes batailles, les grandes guerres, les grandes attaques auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui, il y a une attaque en règle de notre démocratie. Nous devons au quotidien, dans chacune de nos actions, vous-même les élus locaux comme vous le faites, être les garants exigeants de ce que sont les règles de la démocratie. Il n'y a pas de petits coups de canif à la démocratie. Chacun des petits coups de canif engendre des conséquences graves qui sont celles de la perte de confiance. Et cette perte de confiance, a des conséquences gigantesques sur le rapport que nos concitoyens peuvent avoir à l'action politique et à leur propre pays. C'est l'alerte que je veux nous lancer collectivement. Il n'y a pas de petite démission. Tout est important, voire essentiel. Et dans chacune de nos actions quotidiennes, nous devons veiller à ce que ce bien commun qu'est la démocratie soit préservé. Enfin, ce dont je veux vous parler, et comme les collègues l'ont fait, c'est de la République. Il faut mettre des mots sur les choses. Nous ne sommes pas aujourd'hui bousculés par des adversaires. Nous sommes aujourd'hui attaqués par des ennemis. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est une situation de guerre. Il n'est pas utile de rappeler ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il n'est sûrement pas utile de rappeler aussi ce qui se passe sur notre propre sol. Nous devons veiller absolument à nous débarrasser de deux faiblesses. La première de ces faiblesses, c'est la naïveté. Depuis des décennies, nous avons été naïfs.
Une minute.
Face aux valeurs de la République, face à la laïcité, nous avons été naïfs. Nous avons accepté des petites choses que nous n'aurions jamais dû accepter. Nous avons accepté de reculer tout doucement jusqu'à se retrouver acculés, comme nous le sommes aujourd'hui, dos au mur. La première des règles, elle est de nous débarrasser de toute forme de naïveté. Les valeurs républicaines, elles exigent un seul tempérament, l'intransigeance. L'intransigeance, ce n'est pas être buté. L'intransigeance, c'est la seule qualité nécessaire aujourd'hui pour tenir bon face à ceux qui veulent anéantir les valeurs de la République. Le deuxième défaut, et ce sera le dernier, dont il faut nous débarrasser, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement qui a fait que partout dans le monde, depuis des décennies et des années, nous avons laissé faire. Que nous-mêmes, la France, avons quitté bien des territoires ailleurs dans le monde dans lesquels nous avions pourtant des bases installées. Observez en l'espace de quelques mois comment nous avons été boutés de tous les territoires africains. Ceux dans lesquels nous avions pourtant des installations, des liens extrêmement forts. Nous avons, nous, la France, aujourd'hui, plus aucun lien avec le Gabon, avec le Niger, avec l'Afghanistan, qui sont pourtant les territoires dans lesquels se préparent les menaces envers le monde, mais aussi les menaces envers la France. L'aveuglement, celui qui fait qu'on ne voit plus, qu'on refuse de voir, est aujourd'hui ce dont il faut nous débarrasser. Si je vous dis tout cela, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité politique, vous les élus locaux comme nous les élus nationaux, c'est celle de la lucidité. Si nous aimons la France comme nous l'aimons, si nous aimons les valeurs de la République et si nous y croyons comme nous y croyons, vous et nous, nous devons les défendre de toutes nos forces, sans rien céder à qui que ce soit. Pour une raison simple, et ce sera ma conclusion. Parce que les valeurs de la République et les valeurs de la France sont celles qui ont toujours fait notre fierté. Et elles sont celles sûrement qui pourront encore, si nous menons la bataille désormais, faire notre avenir commun. Vive notre beau département, vive la République et vive la France.